Malik Houssekine, Makome, Amin ou Lamine, autant d'hommes noirs ou arabes que la police assassine. Le savais-tu? Entre 1977 et 2019, c'est 676 personnes que la police tue. Derrière ces chiffres, il y a la réalité des vies volées, des familles détruites, d'une soif de justice qui peine à être étanchée. Car dans l'immense majorité des cas, les meurtriers ne seront pas inquiétés. Ils continueront à exercer en toute impunité. Servir et protéger? Non. Sévir et oppresser, tabasser les classes populaires et les personnes racisées. Tel est en vérité le cœur du métier de policier. Maintenir coûte que coûte l'ordre social raciste et bourgeois, il n'y a pas de doute. La police est faite pour ça. À ceux qui s'indignent et demandent, mais que fait la police? Nous répondons.
18 morts par an, qui ose encore parler de bravure et mentir aux parents? Quand ça fait 40 ans que ça dure, l'exception à l'état de droit, l'oppression à l'état pur. 13, 12, c'est nous, ça veut dire que tous les keufs sont des raclures. Passe-droit systématique, car le problème est structurel. La police prend sous serment, la justice est sous tutelle. L'institution par définition et par nature cruelle, la police tue à tue-tête et en plus elle...
Eh ben salut, on est dimanche matin et en studio donc à la Zinzine. Et Luc est à la technique, merci, je vais te faire travailler Luc aujourd'hui pour cette première émission des Actus Libérés, puisque pendant une heure et demie on va avoir plusieurs intervenants avec tout d'abord Jean qui va nous parler de la construction... Le projet de construction de la nouvelle maison d'arrêt de Entraigues. Finalement, il n'y avait pas assez de prison puisqu'on en construit encore à tour de bras. Et ça, voilà, ça prouve encore une fois que le but de notre état actuel est plutôt d'enfermer plutôt que d'émanciper. Et puis, on aura après avec nous donc Agnès qui va nous parler des procès qui auront lieu cette semaine concernant les solidaires de Briançon. Il y a quand même deux rendus cette semaine, donc semaine importante, avec jeudi le rendu à Gap concernant deux solidaires à la frontière, et avec aussi le même jour donc à Grenoble l'appel finalement de l'appel concernant les 3+4 de Briançon, aussi là un appel fait contre en fait des solidaires. Donc voilà, ça prouve, si tant est qu'il fallait encore le prouver, que l'État et la police tendent à poursuivre plutôt ceux qui ont une solidarité plutôt que ceux qui exercent une vraie criminalité internationale. Voilà, et encore, parce que la définition là encore devrait être large, et puis devrait être redéfinie. Et puis on aura après une interview. Alors là, c'est des copains de Radio Libertaire qui l'ont fait. Ça concerne le procès de Bure, donc des opposants au projet de poubelle nucléaire qu'on veut enfouir et puis laisser là pendant 100 000 ans. Il s'agit des matériaux les plus dangereux au niveau des centrales qui sont tentés à être mis sous le tapis, en fait, sous des terres agricoles et des forêts. À Mandran-Barrois et à Bure dans la Meuse et du côté de la Haute-Marne aussi. Donc voilà, donc il y a un appel large qui est lancé et on aura donc l'enregistrement avec trois personnes qui sont poursuivies et qui vont passer en procès donc à Bure. Ça sera à partir de 10h, et puis à 11h30, enfin en troisième partie d'émission pour ceux qui réécoutent. Là, on aura une interview en direct avec Farid Elyamni, qui a le grand malheur de perdre son frère le 1er janvier, donc le réveillon 2012, où il tend toujours à faire reconnaître la vérité sur l'assassinat de son frère par des policiers qui ont tout fait pour cacher la vérité, et puis la justice l'a bien aidé, donc on parlera de tout ça. Enfin, à bien aider les criminels policiers, hein, vous vous en doutez, pas forcément la famille de la victime. Et on voilà, il a écrit un bouquin il y a pas longtemps qui est sorti le mois dernier, qui s'appelle Wissam Vérité, où il revient sur tout le combat finalement de cette famille et aussi des témoignages très forts. Voilà, on aura, il nous a envoyé une chanson avant l'interview où on entendra notamment son frère qui est juste à faire un morceau de rap juste avant son décès, voilà, assassiné par la police. Encore un crime policier. Et puis, en intro, vous avez entendu 13 minutes 12 contre les violences policières. Donc là, c'est un collectif qui a fait ce morceau de 13 minutes qui est dédié à la mémoire de toutes les victimes de la police ici et ailleurs, hier comme aujourd'hui. Donc c'est parti pour la première édition des Actus Libérés qui tend à donner de l'actu sur la justice, la police, la prison. Voilà, tous ces outils à la dont profite l'État en fait pour asseoir sa domination et sa perpétuation. Eh bien, on passe sur un peu d'instrumental et puis on aura suite à ça Jean au téléphone. Nous avons maintenant Jean. Donc Jean, toi, tu es du côté du Vaucluse, j'imagine, vers Entraigues.
Pas tout à fait. Je suis plus dans le sud du Vaucluse, mais on a un collectif anticarcéral qui est assez éclaté sur le territoire du Vaucluse.
Eh ben, il faut dire que l'actualité carcérale doit se réchauffer puisque l'État a lancé un plan très massif de construction de places de prison, a priori 7000 d'ici 2022 et 15000 d'ici 2027. C'est vrai que a priori on entend à chaque fois l'Observatoire international des prisons dire que il faudrait améliorer l'accueil en prison. Bon, nous on tend à penser qu'il faudrait pas seulement l'améliorer, mais il faudrait aussi finalement passer à une autre logique que la logique punitive et carcérale. Et est-ce que tu veux parler un peu de ce plan massif de construction de places?
Ben oui, tout à fait. C'est d'ailleurs là, c'est pas le premier des plans de construction de prisons. Il y en a eu beaucoup, quoi. Mais celui-là, c'est le plus massif qui est eu que l'État a fait jusqu'ici, quoi. Et dans la région, on a ici dans le Vaucluse, on est concerné par la construction d'une prison de 400 places qui vient s'ajouter à celle de 625 places au Pontet, mais qui est ultra bondée d'ailleurs. Il y a 700 places qui sont 650 places qui sont construites nouvelles qui sont construites dans le Var, à Draguignan. Il va y en avoir à Nîmes 700 aussi, quoi. Ça ouvre des cellules à tour de bras.
Et est-ce que tu penses que ces places elles sont réservées parce que l'inspection générale de la police nationale, donc qui surveille le travail de la police, va mieux faire son travail et enfermer les délinquants et criminels bleus, ou c'est pour la délinquance financière, ou c'est pourquoi tout ça?
Ben ouais, tu le sais que cela il vaut jamais en tort. Ceux qui vont en tort, ce sont les populations les plus pauvres, hein, elle représente 93% de la population carcérale, quoi. Voilà, et ici, on en a eu un exemple, d'ailleurs, ils nous mettent en avant toujours avec la construction des nouvelles prisons, ils nous mettent en avant le bien-être des prisonniers, de la surpopulation carcérale, mais on en a eu un exemple avec la construction de la prison des Pontiers. Alors c'est vrai que à Avignon avant il y avait une prison, la prison Sainte-Anne, qui était une prison sordide. Elle date depuis le Moyen Âge, je crois. C'était vraiment les cachots, les bas-fonds, tu vois, avec les rats et tout. Bon, ils ont construit la prison du Pontiers de 625 places. Mais très vite, dans cette prison, le taux de suicide s'est multiplié. Il y a eu énormément de suicides. Et la prison a été surpeuplée parce que les tribunaux Carpentras, Avignon, condamnent à tour de bras. Et c'est d'ailleurs parmi les tribunaux qui prononcent les plus lourdes peines, quoi. Donc voilà, on sait très bien que les prisons qui sont construites ne sont pas pour le bien-être des prisonniers. On peut voir aussi ce qui se passe au Beauvais, avec la modernisation, soi-disant, des Beauvais et tout, et dans les prisons de femmes, ça aboutit à leur mettre des vitres où on n'a même plus l'aération dans les cellules, quoi, où on étouffe. Et voilà ce que c'est leur soi-disant modernisation. Voilà, donc c'est très bien que la construction de nouvelles prisons, ça va être pour mettre toujours plus de monde à l'intérieur, et ce toujours plus de monde, ben c'est les populations les plus pauvres, ce sont celles qui se révoltent, qui ne jouent pas le jeu de cette société.
Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que on a beaucoup parlé du Covid donc depuis un an et demi, mais ceux qu'on a peut-être le plus souffert, c'est les populations qui étaient enfermées dans ces prisons d'État, finalement, puisque il y a tout de suite eu une restriction des visites, avec une quasi-suppression des visites au parloir, et puis des cellules souvent où il y a 2, 3, 4 personnes, où c'était quand même compliqué de tenir les conditions pour la protection des prisonniers. Et donc tout cela fait que en fait on crée des bonbonnières et on légitime la surveillance, puisque ces nouvelles prisons, elles sont quand même vouées à avoir des systèmes de surveillance particuliers, le plus souvent avec une espèce de surveillance panoptique où le prisonnier peut être vu à quasiment tous les moments. Et ça ça va aussi avec le durcissement des situations carcérales, finalement.
C'est ça. De toute façon, on est dans une logique punitive et de faire espier aux individus qui sont enfermés. Tout ce qu'ils font va dans ce sens, quoi. C'est-à-dire aggraver encore les conditions des prisonniers. Alors qu'on nous présente ça comme de la modernité, comme de... Voilà.
Alors, du côté d'Entraigues, où va être donc construite cette nouvelle prison, vous, avec le collectif Crève la Tôle 84, donc collectif anticarcéral, vous vous opposez sur la base d'une argumentation anticarcérale. Faut dire qu'il y a plusieurs dossiers, quoi, hein, parce que j'ai cru comprendre que tout cela se fait sur des terres agricoles. Et vous êtes plusieurs à lutter contre cette prison, contre ce plan de prison d'Entraigues, mais vous un peu plus avec le prisme et la porte d'entrée anticarcérale, si j'ai bien compris.
Voilà, c'est tout à fait ça. Il y a plusieurs organisations, notamment une association qui s'appelle la ZAD du camp d'Entraigues, qui a été très active et qui a été la première sur le terrain, quoi. Ils sont du lieu. Qui a mené un combat pour la défense des terres vivrières, quoi, parce que ça se fait sur les derniers morceaux qui restent de terres vivrières sur Entraigues, quoi. Donc il y a 7 associations entraigoises qui se sont mis dans ce combat, quoi, sur la défense des terres. Mais en gros, il y avait je caricature un peu, mais il y avait des positions, pas de ça chez nous, pas de prison chez nous, aller la faire ailleurs, tu vois. Et nous, tout de suite, là-dessus, on est intervenu en sortant un tract en disant des prisons, nous n'en voulons ni à Entraigues ni ailleurs, quoi. Voilà, donc on a aussi développé un discours, on a essayé de garder le plus possible le lien avec avec ces personnes, avec ces collectifs. On n'a pas cherché à s'opposer à elles, quoi, et à essayer de leur faire comprendre que où que se construise la prison, ça va se construire au dépens des gens qui vivaient là, c'est des lieux de vie, des lieux de travail et tout, de population qu'on va détruire, et tout ça non pas pour faire simplement du béton et élever des murs, ce qui en soi déjà est une mauvaise chose, mais en plus on va y enfermer des êtres humains, quoi. Voilà, donc c'est le discours que l'on tient à tenir dans ce combat, quoi.
Et oui, tout à fait. Et où est-ce qu'en est la situation de ce projet de construction? Il me semble qu'il y avait une enquête publique qui était ouverte.
Alors, il y a une enquête publique qui vient de se terminer. Elle a démarré le 14 avril, elle s'est terminée le 17 mai. En elle-même, déjà, l'enquête publique, c'est pas l'appréciation de toutes les associations, mais c'est l'appréciation de la nôtre. C'est déjà un scandale dans les conditions où elle s'est tenue, parce que la commission des commissaires enquêteurs, ils ont mis un magistrat à sa tête, hein, un commissaire de police, hein, et la troisième personne, c'est magistrat et commissaire de police retraités, et la troisième personne, c'est une prof d'économie à la retraite aussi. Et en plus, alors que la mairie d'Entraigues se trouve en plein dans le centre du village, sur une petite place au cœur du village, l'enquête publique, la réception et la présence des commissaires enquêteurs a été déportée à 2 kilomètres du village, dans les services techniques de la mairie d'Entraigues. Et quand tu arrives, moi j'y suis allé dernièrement, quoi, au moment, le jour de la fermeture, je suis allé voir, quand tu arrives, tu es reçu par des barreaux, par, tu vois, le bâtiment est à 50 mètres plus loin, il faut que tu appelles dans un interphone pour qu'on t'ouvre les grilles. Enfin, c'est aberrant, quoi, la manière de ça s'est déroulé. Et il faut dire qu'il y a eu quand même 379 personnes qui ont déposé des observations. Mmh. Et sur le nombre, il y a eu 358 refus, c'est-à-dire 94% qui se sont prononcés contre la prison. Alors après, on peut analyser les choses différemment, c'est-à-dire que pas toutes l'ont fait sur des positions anticarcérales, loin de là. Il y a eu qu'une vingtaine d'observations qui ont été sur des positions anticarcérales, quoi. Voilà. Mais quand même, il y a eu un refus massif, et dans le nombre, il y a eu seulement 6 interventions qui disaient ouvertement qu'elles étaient pour la prison.
Alors, on sait malheureusement que c'est pas toujours suivi et que ça n'a pas valeur de décision, mais ça montre quand même une tendance. Et est-ce que vous avez des dates de mobilisation ou des choses à venir, à proposer pour des personnes qui voudraient vous rejoindre?
Eh bien, nous, on proposait, alors, pour te dire, quoi, on est quand même assez faible au niveau structure comme un collectif, quoi, sur le Vaucluse. On agit avec des gens d'autres associations qui sont présentes sur place, quoi. On leur a proposé d'entrevoir dès maintenant, parce que les commissaires enquêteurs nous ont dit qu'ils allaient rendre leur avis entre le 15 et le 17 juillet. Donc nous souhaitons qu'il y ait une manifestation, une mobilisation dès le 20 juillet, dès le dimanche 20 juillet. Voilà, en plein cœur de l'entraigue, quoi, qu'on appelle les gens à venir, puis après, qu'on aille, par exemple, pique-niquer sur le lieu même où devrait être construite la prison. Voilà, donc la principale association qui lutte là, contre la prison aussi sur l'entraigue même, c'est-à-dire la ZAD du Plan, ont une position un peu plus attentiste. Hein. Ils parlent d'attendre de savoir la position des commissaires enquêteurs pour savoir comment ils vont se prononcer, voilà. Alors, tu vois, c'est un peu ambigu, quoi. Ils disent, nous attendons le 16 juin, Serge jouait en préparant une riposte éventuelle. Mais bon, voilà, donc nous, on souhaiterait être beaucoup plus
on sait que la
position offensive. Parce qu'on ne se fait pas d'illusions sur la position du préfet, quoi. Le préfet, il ne va pas aller à l'encontre de l'État. C'est intégré dans un plan massif de construction de prisons, quoi.
Tout à fait. Et puis, on sait souvent que la réussite d'une lutte passe par la bonne articulation et la bonne composition entre des mouvements plus offensifs et et l'articulation avec l'autodéfense juridique. Donc c'est un peu l'articulation des deux peut amener quelque chose d'intéressant, certainement.
Tout à fait, c'est pour ça que nous on tient eux ils sont sur des positions beaucoup plus citoyennistes, mais on tient tout à fait à garder le lien, quoi, même si on ne partage pas ensemble les mêmes préoccupations jusqu'au bout, quoi, tu vois.
Eh ben Jean, je sais pas si tu veux nous donner un contact pour terminer ou nous dire quelque chose encore, mais en tout cas moi je te remercie pour cette interview.
Voilà le contact, je vous donnerai l'adresse de notre collectif, l'adresse email de notre collectif, ceux qui veulent nous contacter. Alors le collectif s'appelle Crève l'Atoll 84. @riseup.net.
Eh ben très bien. Eh ben on invite les auditeurs et auditrices s'ils ont des questions ou des remarques à vous les poser. Donc je répète, crèvelatôle84@riseup.net.
Voilà. Et merci à Radio Zenzile.
Eh ben merci à toi Jean d'être avec nous ce dimanche matin. Mais j'imaginais bien que t'étais pas adepte du PMU ou de la messe le dimanche, donc tu serais disponible.
Ciao Masque, bonne émission.
Salut Jean.
Ciao.
File maintenant du côté des Hautes-Alpes où on est avec Agnès. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Voilà, si on t'appelle ce matin, c'est parce que en fait la semaine prochaine va être très importante du côté de la frontière franco-italienne et puis sur les questions de solidarité avec continuité de procès, un appel à Grenoble concernant les 3+4 et puis un délibéré à Gap, c'est
tout
ça?
Tout à fait. Pour ceux qui sont passés en première audience le 22 avril à Gap. Oui, c'est une semaine importante qui s'annonce, en tout cas déjà voilà une journée importante le 27. On aura aussi donc alors voilà, on a eu quand même plusieurs audiences au tribunal entre la poursuite des maraudeurs et la poursuite de la PAF, puisque donc on aura le 26 mai le délibéré du procès en appel des agents de la PAF qui avaient frappé et volé un jeune mineur. Donc voilà, c'est vrai que ça va être une semaine riche en événements. Donc je reviens un petit peu sur le procès qui aura lieu le 27 mai. Donc je sais pas, je pense que tout le monde s'en souvient, le 22 avril 2018, on fait une manifestation entre Clavière et Briançon pour protester et contre l'occupation du col de l'Échelle par Génération Identitaire la veille, et aussi contre la militarisation croissante de la frontière qui met en danger la vie des exilés. Voilà, bon, au soir de cette manifestation, 3 personnes seront interpellées, passeront 9 jours en détention provisoire. Bon, voilà, je vous passe un petit peu les détails. Et donc, ils ont été condamnés le 13 décembre 2018 après un procès fleuve, hein, parce que je pense que beaucoup de gens s'en souviennent, un procès qui a duré 17 heures en première instance. Ils ont été condamnés pour 5 d'entre eux à 6 mois de prison avec sursis, et pour 2 d'entre eux à 4 mois de prison ferme et 8 mois avec sursis. Ils sont poursuivis pour le délit d'aide à l'entrée d'étrangers en situation irrégulière sur le territoire en bande organisée. Au terme de cette première audience, normalement, le délit de bande organisée n'était pas caractérisé et devait être supprimé du jugement. Or, dans la décision du jugement qu'on a reçue, ce délit de bande organisée est maintenu. Donc voilà, on verra un petit peu en appel ce qui va se passer par rapport à ça. C'est important parce qu'en fait, ce procès en fait a quand même marqué pour la frontière, enfin pour ce qui se passait à la frontière franco-italienne, le point de départ en fait d'une série de procès et de harcèlement judiciaire et policier des maraudeurs. Les maraudes, je pense que tout le monde sait ce que c'est. En fait, on va en montagne de nuit comme de jour du côté français pour venir en aide aux personnes exilées qui se trouvent dans un territoire qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, voilà, quand je dis que ça a marqué un point d'étape, c'est que depuis ce procès, bon, se sont succédés plusieurs condamnations au tribunal, dont voilà, deux copains qui sont passés le 22 avril au tribunal pour la même chose, pour délit d'aide à l'entrée d'étrangers en situation irrégulière alors qu'ils étaient sur le territoire français, alors qu'ils portaient secours à une famille dont une femme enceinte de 8 mois et demi. Et le procureur a requis, à notre grand étonnement quand même, 2 mois de prison avec sursis et 5 ans d'interdiction du territoire. 5 ans d'interdiction du territoire, c'est énorme pour des personnes qui, en fait, ont leur résidence sur le territoire, même s'ils ne sont pas originaires du territoire. Et c'est aussi, en fait, voilà, entre le procès des 3+4 et ce procès du 22 avril et les autres mesures d'intimidation qu'il y a eu avant, hein, donc à savoir une 60aine de verbalisations pour non-respect du couvre-feu depuis le mois de janvier, malgré des attestations en bonne et due forme, une 15aine d'auditions libres, en tout 6 gardes à vue, donc même des journalistes ont été placés en garde à vue. Donc voilà, c'est quand même un contexte qui criminalise beaucoup la solidarité. Et tout ça, en fait, ça vise vraiment à une seule chose, c'est à dissuader les gens de continuer à venir nous aider, de dissuader les gens à continuer ce mouvement de solidarité envers les exilés. Parce que de toute façon, mais l'État le sait, comme le procureur le sait, comme tout le monde le sait, en fait, tout ce qui est mis en place à la frontière, c'est juste du théâtre pour faire croire que, effectivement, on protège la frontière, qu'on protège la nation de tous ces indésirables qui viendraient nous envahir. Or, en fait, de l'aveu même des forces de l'ordre, tout ça ne sert à rien, puisque, de toute façon, 100% des exilés arrivent à passer. Ils vont tenter une fois, deux fois, ils vont se mettre en danger dans la montagne, mais ils finiront par passer. De toute façon, ils finissent par passer parce que, de toute manière, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas faire machine arrière. Ce sont des gens qui sont partis, qui ont tout laissé, et leur seul but, c'est d'avancer. Donc, de toute façon, quoi qu'on mette en place, ces gens passeront. Mais puis, le problème, c'est que tout ça, ça les met en danger. Les met en danger.
Oui, tout à fait. Et il y a des choses que vous rappelez très bien dans votre dossier de presse, donc qu'on a reçu, c'est que pendant ce temps-là, en fait, les effectifs de la police aux frontières ont doublé, que tout cela entraîne en fait des poursuites et comme tu le dis très bien, des mises en danger, et que il y a déjà eu finalement des morts et des blessures graves qui sont dues en fait à ce danger de passer cette frontière en montagne, alors qu'il n'y a pas d'autre voie finalement pour ces personnes si elles veulent s'en sortir que d'emprunter cette route. Allô? Eh ben, on va peut-être essayer de rappeler brièvement Agnès. Voilà. Ah ben, elle nous rappelle elle-même. Peut-être qu'on voilà. Juste rappeler que la manifestation de Génération Identitaire avait, elle, abouti à une relaxe, hein, le 21 avril 2018. Donc, est-ce que je m'adresse à Luc, là, qui a la technique, pour voir si on a retrouvé Agnès? Eh ben, super. Donc, on va pouvoir retrouver Agnès. On a peut-être encore des petits soucis. Tout cela va se régler. Voilà, mais dire que le relax de Génération Identitaire, voilà, il y a eu une dissolution il n'y a pas longtemps de cette organisation, mais aucune personne physique n'avait été poursuivie, alors que c'est interdit de faire force de police en montagne. Et cette action avait été notamment permise par le don financier du terroriste de Christchurch, donc un terroriste d'extrême droite, hein, qui en Nouvelle-Zélande, Brenton Tarrant, qui lui avait financé et avait dans son communiqué, son brûlot, on va dire, avait parlé de notamment de Génération Identitaire. Donc on voit bien à quel point l'organisation terroriste n'est pas du côté qu'on le pense. On retrouve Agnès là rapidement. Ouais. Et ben, Agnès, on est de nouveau avec toi. Je parlais notamment du fait qu'il y avait eu une relaxe de Génération Identitaire, donc pendant suite à leur action à se finalement constituer force de police à la frontière. Et puis je disais aussi que les effectifs de la police aux frontières ont doublé en novembre 2020, comme vous le marquez dans votre communiqué de presse, et que pendant ce temps-là, donc ça entraîne une traque toujours plus active des exilés qui des fois finit par des drames, finalement des morts à la frontière, des blessures très graves.
Tout à fait. Et ce qui est encore pire cet hiver, c'est qu'en fait, du fait de la fermeture des stations de ski, en fait, il n'y avait que trois acteurs la nuit, donc les exilés, les forces de l'ordre et nous. Et donc, ça rendait encore cette espèce de guerre, en fait, de chasse à l'homme qui est faite à l'encontre des exilés encore plus affreuse, parce que vraiment, c'était... La nuit, c'était un théâtre de chasse à l'homme. On voyait donc ces grands gyrophares, ces grandes lumières qui balayaient la montagne, les scooters des neiges qui partaient aux trousses des exilés. Et au milieu de tout ça, pas de témoins, si ce n'est nous, mais qui, de la même manière, étaient aussi harcelés par les forces de l'ordre. Donc oui, c'était vraiment assez impressionnant. Après, le renfort des forces de l'ordre à la frontière et de toute façon la continuité de la criminalisation, aussi bien en Italie qu'en France, hein, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que du côté italien, ils prennent cher. Hein, le refuge, le squat qui accueillait les exilés était fermé. Et là, on se rend compte aujourd'hui que de toute façon, les exilés continuent d'arriver et qu'il n'y a plus assez de place pour les accueillir à Oux. À Briançon, c'est pareil. Bon, le refuge solidaire a été menacé de fermeture, etc. Et donc, tout ça, en fait, ce sont toutes des mesures qui sont prises pour nous épuiser. En fait, ce qu'on vit, c'est à épuiser la solidarité, à faire en sorte que les solidaires se découragent, qu'ils soient fatigués, parce qu'effectivement, c'est quand même quelque chose qui fatigue physiquement et moralement. Et en même temps, on voit bien à quoi on assiste en France aujourd'hui, hein, donc à la montée de toutes les idées xénophobes et racistes qui ont pignon sur rue maintenant aujourd'hui. Et la relaxe de Génération Identitaire, elle est tout à fait dans ce mouvement-là. Moi, j'assistais au procès en appel de Génération Identitaire et on les a entendus dire « Mais oui, mais c'est notre liberté de manifester, d'exprimer nos idées. » Et l'avocat a osé même faire un petit rappel de ce qui s'était passé à Nice en disant « Mais voyez, verrouillez bien qu'aujourd'hui, c'est normal. » Il a dit comme ça « C'est normal d'avoir peur des immigrés qui arrivent, quoi, donc des exilés qui arrivent. » Bon, il a dit immigrés, hein, mais voilà. Et on est dans ce contexte-là. Et c'est vrai que porter ce message de l'accueil, du respect du droit des personnes, de la dignité humaine, il devient vraiment compliqué. On s'en rend compte, hein, je sais pas, je pense que tout le monde a en tête les images qu'on a vues à Ceuta et Melilla, je sais pas, c'est des images qu'on n'aurait jamais imaginé voir. voir les forces de l'ordre qui repoussent les migrants à la mer et qui les font retourner, mais c'est complètement incroyable, voilà. Et en montagne, c'est la même chose. Des gens qui arrivent la nuit dans la neige et tout, ben voilà, pareil, on les repousse de la même manière et c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà, le 27, ce sera l'occasion de dénoncer tout ça et de belles discussions, j'espère. On a beaucoup d'artistes grenoblois qui sont engagés à nos côtés et qui vont dire ces choses à travers leur art, que ce soit des slameurs, des rappeurs, des danseurs, des acteurs de théâtre, etc. Voilà, en tout cas, voilà, on espère que ce message va passer le 27 mai et que, en tout cas, les 7 personnes poursuivies verront leur peine amoindrie et seront relaxées, en tout cas, de ce quoi on les accuse.
Alors, est-ce que tu peux juste nous rappeler comment vous joindre et puis comment vous rejoindre aussi?
Alors, comment nous joindre? Donc, on a... on a une pétition en ligne, on a une cagnotte en ligne, mais ça je pourrais vous donner les liens. On
Alors a une la pétition mail. C'est sur change.org et la cagnotte ouais. solidaire c'est papayou-solidaire.com. Voilà, appel à soutien 342 de Briançon.
C'est ça, c'est bien, tu sais tout par cœur. Alors moi là, je t'avoue que à 5 jours du procès, c'est un peu la course. Et voilà. Et sinon, donc nous rejoindre, eh ben, c'est à 13h à Grenoble. Devant le tribunal de Grenoble, voilà, ça commence à 13h, on sait pas du tout à quelle heure ça va finir. Donc en fait, sur les réseaux un peu partout, on est en train de faire passer et des liens pour les gens qui auraient besoin d'un hébergement pour Grenoble, et des liens pour l'attestation dérogatoire, parce qu'en fait, selon les avocats donc qui défendent les solidaires, il y a peu de chances que ça dure moins longtemps qu'au premier procès. Bon, voilà, il faut savoir que quand une affaire est jugée en correctionnel, on peut pas la remettre au lendemain, il faut qu'elle soit jugée dans la journée. À Gap, on avait fini à 2h du matin. Il faut s'attendre ici à finir aussi à 2h du matin.
Et voilà. Ben, très bien. Donc ça sera à 13h devant la cour d'appel de Grenoble, place Firmin Gauthier.
C'est ça.
Eh bien Agnès, on te remercie d'être avec nous, d'avoir été avec nous un dimanche matin. Et
merci à vous de porter l'info au plus près des personnes qui peuvent se mobiliser, parce que c'est vraiment... vraiment important, quoi.
Eh ben, on va se tenir très informés, de toute façon, et puis on sera là, avec vous.
Super, merci beaucoup. Merci, allez. À jeudi, alors.
Bonne journée. Eh bien, on va passer maintenant une petite demi-heure sur le procès de Bure qui aura lieu donc le 1-3 juin. On écoutera d'abord le jingle qui nous remet en situation, on va dire, pour l'appel à mobilisation et puis raconter ce qu'est un peu le procès. Puis après, on aura une interview croisée de trois personnes qui sont poursuivies pour association de malfaiteurs. Et oui, on se demande encore une fois qui sont vraiment les malfaiteurs dans ces affaires. Voilà, eh bien, on écoute tout ça.
Tous et toutes à Bar-le-Duc le 1, 2 et 3 juin contre Cigéo, le nucléaire et la criminalisation de nos luttes.
Après 4 années d'instruction pour association de malfaiteurs,
des milliers d'heures d'écoute par la gendarmerie,
un dossier de 15 000 pages,
des mètres cubes de matériel saisi,
un harcèlement policier omniprésent dénoncé par la Ligue des droits de l'homme,
l'heure de la mascarade judiciaire a sonné.
Les 1er, 2 et 3 juin au tribunal de Bar-le-Duc, se tiendra le procès des 7 malfaiteurs de la lutte à Bure.
Des amis, luttant contre le projet de méga poubelle atomique Cigéo, ont été privés de leur liberté de circuler et empêchés de se parler pendant de longues années.
Cette procédure a constitué une peine et a tenté de paralyser tout un mouvement de résistance.
Ce qu'on muselle chez ces personnes, c'est leur engagement antinucléaire, leur conviction et leur liberté d'expression.
Nous sommes toutes des malfaiteurs.
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 il n'y a toujours aucun déchet nucléaire à Bure. Pour autant, nous sommes à un moment charnière, car Cigéo pourrait bientôt être reconnu d'utilité publique.
Expropriation, défrichement du bois Lejus et premier chantier pourraient voir le jour d'ici 2022. Nous ne nous laisserons pas faire. Tous et toutes à Bar-le-Duc, le 1, 2 et 3 juin, contre Cigéo, le nucléaire et la criminalisation de nos luttes.
Après 4 années d'instruction pour association de malfaiteurs,
des milliers d'heures d'écoute par la gendarmerie,
un dossier de 15 000 pages,
des mètres cubes de matériel saisi,
un harcèlement policier omniprésent dénoncé par la Ligue des droits de l'homme.
Sur le rôle des artistes engagés cette fois dans la commune, comme Gustave Courbet. Donc ce sera donc en deuxième partie. On commence avec ce procès donc pour association de malfaiteurs qui va s'ouvrir à partir du mardi 1er juin. C'est prévu aussi les 2 et 3 juin. Éventuellement, ça pourra faire l'objet d'une prolongation. Ça se passe donc à Bar-le-Duc, préfecture de la Meuse. 7 personnes sont renvoyées en correctionnel après 4 ans d'enquête. Une lourde instruction qui vise évidemment à criminaliser l'opposition résolue et farouche au projet de poubelle nucléaire, c'est-à-dire l'enfouissement des déchets radioactifs les plus toxiques. Ce projet s'appelle Cigéo et son maître d'œuvre c'est l'ANDRA, l'Agence des déchets radioactifs. Alors la lutte s'ancre là-bas depuis près de 30 ans dans la région de Bure, hein, entre la Meuse et la Haute-Marne. La répression s'abat dans la zone depuis des années et ce procès n'est finalement qu'une étape de plus. Il n'y a donc toujours pas de déchets enfouis à Bure. C'est pour ça qu'il faut aller sur place soutenir tous les acteurs de la lutte, qu'ils ou elles soient ou non sur le banc des accusés. Alors, je suis donc avec 3 malfaiteurs, malfaiteuses. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, très bien.
Alors d'abord, je vais vous présenter donc comme malfaiteureuse. J'aime bien ce terme, malfaiteureuse. Je ne vous demanderai pas si vous êtes ou pas mis en examen. Je ne vous demanderai pas si vous serez donc face au juge lors du procès dans 10 jours. Et alors justement, vous pourriez expliquer cette position. Vous êtes donc tous et toutes des malfaiteurs et malfaiteuses. Et c'est donc le délit qui vous est reproché, qui implique que vous êtes tous visés en fait par l'enquête.
On est tous et toutes visés pour plusieurs raisons. Mais moi, la première raison à laquelle je pense, c'est qu'en fait, cette instruction, elle a eu un impact sur la lutte contre le projet CGO et aussi sur du coup toutes les personnes qui participent à cette lutte et qui la portent, que ce soit sur le territoire de la Meuse et de la Haute-Marne, mais aussi plus largement sur l'ensemble du territoire.
On peut dire qu'avec cette instruction, c'est tout le mouvement de lutte qui a été sous surveillance. C'est des dizaines d'écoutes téléphoniques, des voitures qui ont été suivies. Donc c'est vraiment tout un mouvement de lutte dans son ensemble qui a été sur le feu. Donc dans ce sens-là, on est tous des malfaiteurs et des malfaiteuses parce que ce qui est finalement reproché, c'est d'être en lutte.
Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table sur comment chacun vous abordez un petit peu toute cette semaine autour du procès?
Ouais, la manière dont on l'aborde, elle est assez multiple parce qu'il va y avoir plusieurs enjeux qui vont se superposer durant ces quelques jours de procès. Et le premier, c'est évidemment l'enjeu judiciaire et c'est évidemment une espèce d'aboutissement. Et ouais, il y aurait sûrement une forme de soulagement à ce que ça soit fini, cette instruction depuis le mois de décembre et que là, le procès soit passé et qu'on puisse tourner cette page-là. Et donc, il y a l'enjeu judiciaire clair de que les personnes s'en tirent le mieux possible. Mais ce qui est du niveau de la mobilisation et du mouvement de lutte dans son ensemble, il y a un enjeu qui est vraiment fort à montrer que cette instruction, cette enquête, les perquisitions, le contrôle, la surveillance, etc., ça avait quand même un objectif clair qui était non pas d'emmener des personnes devant un tribunal, mais de déstructurer et de casser tout un mouvement de lutte, tout un mouvement politique. Et du coup, il y a un enjeu à être massivement présente devant le tribunal pour montrer que en fait ça c'est raté, que ça clairement ça a fait du mal à la lutte et au mouvement, ça nous a empêchés de nous voir, de nous organiser, ça a cassé des dynamiques. Mais en fait, comme l'enquête a été assez longue, on en est quand même un peu revenu. Alors qu'il est plutôt là, sur place, les dynamiques, elles sont chouettes et elles sont peut-être plus fortes que ce qu'elles étaient il y a quelques années au moment où il y a eu les vagues de perquisition. Mmh. Et ça, c'est important de montrer et de montrer à la fois ça, de montrer que la lutte, elle a pas été coupée non plus de ses soutiens un peu à l'extérieur, quoi. Tous les comités de soutien, tous les gens un peu partout qui avaient pris l'habitude de venir. Et ça, ça nous importe qu'il y ait ce monde-là qui vienne devant le tribunal, que ça soit joyeux, que ça soit festif et que ce soit pas un moment pour dire « Ah, la répression, elle nous rend la vie insupportable », mais plutôt de dire « En fait, on a dépassé ce truc-là et quand même on sait qu'on va continuer à être réprimé, on va quand même continuer à s'opposer à ce projet ». Et il y a aussi un enjeu de… relier cette histoire-là à plein d'autres histoires de répression ailleurs en France pour démonter ce cadre de l'association de malfaiteurs qui, en gros, criminalise les formes de contestation politique un peu partout. Et ça, il y aura un temps un peu dédié à ça pour que des gens de Rennes, de Paris, de Lyon, de Grenoble viennent partager leur récit de répression et spécifiquement sur ce dispositif d'association de malfaiteurs.
Pour tous ceux qui ne connaissent pas CIGEO, qu'est-ce que vous diriez sur ce projet donc, qui traîne en longueur depuis des années?
Alors, pour parler du CIGEO, il faut surtout parler de l'industrie électronucléaire. L'industrie électronucléaire, elle essaye depuis des années de faire croire, malgré tous les accidents, Tchernobyl, Fukushima, qu'elle ne présente pas de soucis, que tout est sous contrôle. Donc, malgré tous les accidents, cette industrie a réussi à faire croire qu'elle maîtrisait les choses. Mais par contre, elle produit, et ça depuis le début, énormément de déchets, et elle n'a jamais su quoi en faire. Alors, c'est des déchets un peu particuliers, parce que c'est des déchets qui sont hautement dangereux pour le vivant, pour l'ensemble du vivant, pour les humains, pour la faune, pour la flore, et c'est surtout des déchets qui durent extrêmement longtemps. Alors, il y a eu plusieurs choses qui ont été proposées, durant l'histoire du nucléaire, de les jeter dans la mer, de les envoyer sur la Lune. Enfin, d'ailleurs, dans la mer, ça a été fait. Mmh. Et finalement, là, la solution qui a été choisie par ces entreprises, c'est finalement l'enfouissement. Donc, de creuser un trou, de faire à 500 mètres sous terre et de faire 300 km de galerie pour y mettre les déchets de l'industrie électronucléaire. Alors, ce qu'on voit là-dedans, dans ce projet, qui est complètement démesuré, qui présente énormément de risques, qui serait dangereux pour l'eau, pour toutes les nappes phréatiques, mais il y a des risques d'explosion, d'incendie. Enfin, c'est un projet qui est complètement aberrant et qui par lui-même, qui de fait de sa construction, provoquerait énormément de risques associés. Mais au-delà de ça, en fait, cette solution qui est proposée, elle est là uniquement, je dirais, pour pouvoir continuer le programme électronucléaire, parce que les centrales sont vieillissantes, il faudrait en refaire de nouvelles. Est-ce qu'on va encore partir vers cette nouvelle énergie? Pour ça, il faut une solution aux déchets, et ce serait donc le CIGEO. Donc le CIGEO, c'est le centre industriel de stockage géologique. C'est dur. Il y a beaucoup d'acronymes dans le nucléaire. Hein. Il y a énormément d'acronymes, mais c'est pas toujours simple de s'y repérer. Et donc combattre ce centre de stockage, l'idée même qu'il puisse exister, c'est surtout dire, avant même de réfléchir à ce qu'on va faire aux déchets, nous on n'en veut plus, on veut que l'industrie s'arrête, et ensuite on aura tout le temps du monde, malheureusement, pour réfléchir à ce qu'on en fait.
Quand on parle de répression de la lutte contre CIGEO, dans le coin, dans la région, dans la Meuse et dans la Haute-Marne, tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore mis les pieds là-bas se rendent pas compte un peu de la pression quotidienne. Comment on pourrait résumer ça?
Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de il y a toujours une répression policière sur le territoire, mais à partir de 2018, il y a plusieurs escadrons de la gendarmerie mobile, en fait, qui se relayaient sur le territoire, et précisément à Bure, pour surveiller les habitants et les habitantes de Bure et des villages aux alentours, et notamment les personnes identifiées comme opposantes au projet CIGEO. Et en fait, ça, concrètement, ça se traduit par des contrôles d'identité plusieurs fois par jour, par des photos qui sont prises par les gendarmes de plaques d'immatriculation des véhicules garés autour de lieux d'habitation d'opposants, d'opposantes au projet, par aussi des réquisitions demandées par le procureur de la République, Olivier Glady, des réquisitions incessantes, et par des patrouilles, en fait, tout simplement, des patrouilles de la gendarmerie, c'est-à-dire que quand on sort de chez soi, très fréquemment, on voit les gendarmes qui roulent assez lentement et qui surveillent ce qui se passe aux alentours. Et du coup, à partir de 2018, cette présence-là, elle était omniprésente. Et les personnes qui vivaient sur place se sont, j'allais dire accoutumées, mais non, en fait, on s'accoutume jamais de ce genre de choses. Mais en tout cas, cette présence-là faisait partie du quotidien, quoi. On peut imaginer que ça a essentiellement un impact sur les personnes qui s'affichaient comme opposants et opposantes au projet, les personnes qui vivaient à la maison de résistance ou dans des lieux habités autour, mais ça a eu et ça a toujours un impact sur des personnes qui habitent là depuis des années et des années, en fait. C'est quelque chose qui, je pense, difficile à imaginer quand on ne le vit pas.
Moi, je voulais dire que finalement, presque cette présence policière constante, cette militarisation du territoire, qui montre finalement le vrai visage du militaire, c'est pour moi une excroissance de ce qu'il y a eu à l'œuvre sur Bure et environ depuis une vingtaine d'années, car depuis qu'il y a eu donc l'annonce de ce projet de poubelle nucléaire, beaucoup d'habitantes des villages ont été pressurisées dans le cadre d'opérations foncières. Donc il faut quand même rappeler que depuis des années, on a des paysans qui sont harcelés par l'ANDRA pour obtenir leurs terres pour le projet CIGEO. Et que l'ANDRA s'est quand même installé sur tout le territoire via le GIP, donc le groupement d'intérêt public, donc qui redistribue l'argent du nucléaire aux entreprises. Et que vraiment, le nucléaire est devenu, enfin, en tout cas, l'argent du nucléaire s'est limité dans tous les villages, dans les mairies, dans les entreprises, et que cette militarisation du territoire, c'est presque finalement la cerise sur le gâteau, enfin, d'un processus qui est là depuis un moment d'envahissement par l'industrie du nucléaire de tout ce territoire.
J'avais prévu de faire un petit passage sur les délires de l'enquête.
Non mais oui, c'est quand même important d'avoir en tête ce qu'on dit, bon, procès, malfaiteur, machin, tout ça. Nous, on fait un peu des blagues, on annonce un effectif, mais en fait, c'est quand même un sacré machin. Et pour que les gens se figurent un petit peu, c'est un dossier qui, là, à l'heure où il a été bouclé, fait environ 20 000 pages en comptant toutes les cotes, tous les récits de tout, donc c'est déjà pour qui n'a jamais lu ce genre de littérature, c'est tout à fait exécrable et bureaucratique. Il y a vraiment dès que quelqu'un fait une demande de quoi que ce soit, ça produit 3 pages qui sont mises au dossier. Ouais. Donc il y a vraiment des formulaires qui suivent des formulaires qui suivent des formulaires. Donc pour essayer de comprendre quelque chose, c'est une difficulté assez insoupçonné, et parce qu'il y a eu des dizaines de perquisitions, donc tout est raconté. Après des manifestations, ils viennent, ils ramassent des cailloux. Chaque caillou est mis dans un sac qui a une cote de scellé. Et après, il est décrit comme caillou ayant éventuellement servi à être jeté sur des forces de l'ordre. Ensuite, il est passé à l'ADN pour voir si on trouve de l'ADN sur ce caillou. Donc évidemment, il y a des pages entières de listes de cailloux avec néant écrit à côté puisqu'ils n'ont évidemment pas trouvé d'ADN sur ces cailloux. Enfin, c'est ce genre de choses. Donc, pour arriver à... Moi, j'ai l'impression que... quasiment la manière dont ces choses sont faites, ça empêche de les comprendre, en fait. Ça empêche d'avoir le courage de les lire, de les travailler, d'essayer de démonter les affirmations que eux peuvent poser à la lecture de ces dossiers. Mmh. Et ça dit aussi quelque chose du temps infini que des gens ont passé à nous observer, à nous écouter, à retransmettre des conversations à l'écrit, des pages entières de choses comme ça. Au-delà du fait que c'est évidemment hyper intrusif, ça rentre dans l'intimité des gens, c'est révoltant sous plein d'aspects. Il y a au milieu de ces 20 000 pages, il y a toute une somme d'aberrations, de moments où on se rend compte qu'ils sont partis pendant plusieurs interrogatoires à et des semaines à aller chercher des gens pour chercher des réponses à des questions qui se sont posées mais qui n'ont pas lieu d'être et dont ils avaient les réponses déjà dans leur dossier. Mmh. Un moment qui est un peu comme ça, qui se rend compte bien de, où ils trouvent dans le petit journal qui était fait à Bure il y a quelques années une petite annonce de quelqu'un qui cherche un casque blanc qui a été perdu dans la salle informatique. Et plus tard, cette personne est identifiée et perquisitionnée et interrogée. Et en fait, eux soupçonnent que cette personne qui a perdu un casque blanc doit être la personne qui porte un casque blanc dans une manifestation, alors qu'il s'agit dans la manifestation de quelqu'un qui a un casque de moto, et la personne qui a perdu un casque blanc a évidemment perdu un casque audio qui servait dans la salle informatique. Et ça, cette confusion-là, qui peut sembler comme ça un peu idiote, ben en fait, ça a quand même mené à ce que quelqu'un soit arrêté, soit perquisitionné deux fois, subissent plusieurs interrogatoires et des dizaines d'heures de garde à vue, entre autres parce qu'ils se sont dit, tiens, casque blanc, quoi. Et après, faut pas non plus imaginer qu'ils sont tous complètement idiots et que l'enquête, elle est menée de manière complètement fantasque. Il y a quand même des choses qui sortent de toute cette lourdeur. Et mais c'est 20 000 pages et c'est vraiment très dur à se manger, quoi.
Mais d'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, l'objectif d'une enquête comme celle-là, c'est de, avant tout, de dézinguer la lutte et de se payer la lutte. Et apparemment, déjà, ça, c'est objectif raté, quoi.
Bah, c'est raté. Oui. C'est raté aujourd'hui, à 4 ans plus tard. Mais il y a quand même des gens qui, à mon avis, sont partis ou sont jamais venus. Ou... Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on a des gens là qui arrivent. Parce qu'il y a un nouveau souffle depuis un an et demi. Il y a des gens qui arrivent dans les coins de Bure et dont on comprend un jour en discutant qu'en fait ils seraient bienvenus il y a 3 ans, mais que quand ils voyaient ce qui se passait en termes de répression, ben en fait ils ont préféré aller ailleurs ou faire autre chose de leur vie, quoi. Donc c'est pas vain, en fait ça marche. Il y a des gens qui ne bouteront plus jamais de la même manière. Il y a des gens qui iront plus jamais en manifestation de la même manière. Ça porte des coups qui sont extrêmement durs. Cela dit, le projet est si mauvais et si dangereux et si c'est si important de lutter contre que ça, ils n'arriveront pas à ce que de plus en plus de gens ne se rendent pas compte. Donc nécessairement, il y a des gens qui reviennent, il y a des gens qui arrivent qui sont jamais venus et il y a une forme de résilience, là, pour dire un mot à la mode, qui fait qu'à un moment donné, bah, on a un peu pensé les plaies et les traumatismes et les difficultés liées à l'enquête, aux perquisitions, etc., pour se relever et faire autre chose. Et ce autre chose-là, bah, il attire des gens et ça va continuer à grossir. Et cet été, il va y avoir plein de nouveaux événements. Et clairement, la répression, ça a jamais été notre seul sujet, mais à un moment donné, ça va cesser de l'être parce qu'en fait, nous, notre objectif, c'est pas de s'en tirer bien au tribunal. En tout cas, pas seulement. Notre objectif, c'est qu'il ne fasse pas ce projet-là et on est à peu près convaincu qu'il n'aura pas lieu.
Alors, le tribunal de Bar-le-Duc, comment dire, il est quand même assez restreint, surtout qu'avec le Covid, j'imagine qu'ils vont mettre en place un protocole qui permettra à très peu de monde de rentrer dans la salle. Ce qui s'annonce, je crois, c'est que ça se passera aussi à l'extérieur.
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 40 places disponibles à l'intérieur du tribunal, donc c'est-à-dire que 40 personnes pourront assister au procès, mise en examen compris. Mais c'est vrai que ça va être assez restreint. En ce qui concerne le protocole sanitaire, on n'a pas vraiment eu d'informations à ce sujet-là, mais j'imagine que c'est le même que partout. Et donc du coup, bah nous, ce qu'on s'est dit, c'est que fallait organiser des choses à l'extérieur. Pendant les 3 jours, va y avoir différents stands d'associations, de collectifs qui vont être mis en place devant la place, enfin sur la place du tribunal. Et notamment le premier jour, ça va être le mardi 1er juin. Donc ça va être un temps fort de cette mobilisation qui devrait durer 3 jours. Après, ces 3 jours de procès, c'est une durée qui est prévisionnelle, c'est-à-dire que le procès peut durer plus longtemps en fonction de comment ça se passe. Et c'est important à savoir. Et en fait, ce premier jour, il y a 2 choses qui nous paraissaient importantes à mettre en lumière. Donc d'une part, CIGEO et le nucléaire, et d'autre part le dispositif d'association de malfaiteurs. Donc en fait, donc le premier jour, la matinée, va y avoir une pièce de théâtre conférence qui s'appelle le procès de CIGEO. L'idée, c'est de faire le procès de ce projet et de l'ANDRA. Donc ça va être une pièce de théâtre qui va être jouée par par des opposants et des opposantes au projet CIGEO. Et l'idée, c'est que bah voilà, pendant que nos amis ils comparaîtront et ils seront jugés dans le tribunal, et ben nous en fait on fera comparaître CIGEO et on en fera le procès. Donc l'idée, c'est que ça se passe de manière simultanée. Donc ça, c'est la matinée du mardi. Ensuite, l'après-midi, il y a une manif, un cortège festif, donc qui démarrera de la place du tribunal à 14h. Et qui se terminera par une prise de parole par et pour les différentes associations de malfaiteurs en France, mais pas que, aussi au-delà de la France. Et l'idée de ces prises de parole, c'est de vraiment dénoncer le dispositif d'association de malfaiteurs. Voilà. Et la journée devrait se terminer par de la musique, par des concerts, par des chorales, par des danses, par des chants. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment d'essayer de terminer de manière festive et légère, même si évidemment ce qui se passe passera à l'intervenir sera tout sauf festif et léger. Et évidemment, l'idée, c'est que bah, pour ce premier jour, on soit aussi nombreux et nombreuses que possible. Quoi.
Donc, ce qui est prévu, c'est deux fois dans la journée, donc un retour aux personnes qui sont à l'extérieur de ce qui s'est passé, un compte rendu des discussions et des réactions dans la salle. Donc ça, c'est prévu deux fois par jour.
Et sur les autres jours de la semaine, il y aura toujours le même dispositif, je dirais l'accueil sur la place du tribunal.
Et ben, il y aura à la fois le même dispositif fixe, alors des pizzas, des frites, des crêpes, des cantines, ouais. Des librairies, des kermesses, enfin, il va y avoir tout un tas de choses très chouettes sur la place. Et en plus, donc le mercredi matin, nous avons un ensemble de discussions sur les questions paysannes, avec une bourse de plants, des échanges de graines, des prises de parole d'agriculteurs et puis aussi d'agricultrices du coin. Donc ça, c'est le mercredi matin. L'après-midi, il va y avoir plusieurs thématiques féministes qui vont être développées avec des discussions sur le féminisme et le nucléaire. Et puis toute une librairie avec des livres un peu plus spécialisés sur les questions féministes. Avec également un atelier de sérigraphie et plein de jeux pour les enfants. Car on s'est dit que le mercredi, il fallait plein de jeux pour les familles qui vont jouer avec nous. Et le lendemain, ça va être la grande kermesse. Ouais, parce que par rapport à cette mascarade, il nous faut au moins ça. Il faudra tenir dans la durée et dans le temps devant ce tribunal. C'est pas toujours drôle. Donc on va sortir les chamboultous, les pêches au canard, etc. On va bien s'amuser. L'après-midi, on va faire un pot de départ. C'est déjà quelque chose qu'on avait fait il y a quelques années. Et là, on recommence. On va faire un pot de départ parce que le directeur de l'ANDRA, il a été nommé. Il a été nommé à Metz, à la Dréal, et du coup, il nous quitte. Donc, dès qu'il nous quitte, on va quand même fêter son départ. Hein. C'est ça. Alors, il va y avoir des petits fours, il va y avoir des discours, il va y avoir des marionnettes. Ça va être chouette. Et ça, c'est le jeudi après-midi. Je voulais quand même juste rajouter quelque chose par rapport à la mobilisation devant le tribunal. C'est que ce procès, il arrive aussi à un moment très particulier de la lutte. Il faut savoir déjà que ce procès, les mises en examen ont été mises au courant de la date 6 semaines avant. Ouais. Donc, avant, c'est quand même assez scandaleux. Ça laisse très peu de temps pour mobiliser, pour prévenir les amis, pour préparer sa défense. Donc, déjà, si ce n'était pas déjà un scandale, cette instruction, la date de ce procès est un scandale en elle-même. Et ensuite, ce procès, il arrive dans une période de concertation publique. Mmh. Nous sommes, par rapport au projet de tribunal nucléaire, donc à l'étape de la DUP, de la déclaration d'utilité publique, que doivent connaître toutes les personnes qui ont déjà été confrontées à des projets aussi stupides et aberrants. Donc, c'est une période de mise en conformité du projet avec les politiques urbaines locales. Et c'est une procédure qui pourrait amener l'ANDRA à avoir le droit de commencer certains travaux, mmh. alors même que la poubelle, pour le moment, n'a pas encore d'existence légale. Ouais. Donc ça, c'est la période administrative dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle. Tout un ensemble de concertations depuis un an se déroule auprès des habitantes et des habitantes du village concernant donc, les travaux qui seraient engagés si la DNP était acceptée. Et d'ici quelques semaines, nous devrions avoir carrément une enquête publique. Donc, juste avant l'enquête publique, on va demander aux personnes de se prononcer sur la pertinence du projet Cigéo. On nous tend l'épouvantail d'un procès. C'est quand même assez gonflé. Et bien évidemment, durant plusieurs journées devant le tribunal, il va y avoir tout un ensemble d'explications au sujet de cette fameuse DUP que les personnes qui viennent puissent en saisir tous les enjeux. Ce sera un des fils rouges des discussions sur la place. C'est vraiment scandaleux au moment où on demande à des gens leur avis, ouais. dans, exactement en même temps de faire un procès aux opposants.
C'est toujours compliqué de savoir... Non, mais je me dis, il y a effectivement ce truc de... si tu te mets dans la tête des gens dans les villages à qui... dont on parlait précédemment, tu vois, qui se font réprimer depuis 20 ans, ceux et celles qui ont essayé de un peu s'opposer à ce projet-là, qui se sont fait racheter leurs terres, qui se sont fait menacer sur le foncier, sur les bâtiments, sur de toutes sortes par l'ANDRA. Là, on leur propose théoriquement de pouvoir aller donner leur avis sur l'ensemble du projet, et on peut assez facilement imaginer que là, dans les semaines qui viennent, la presse locale, elle va un peu abondamment reprendre ce truc de association de malfaiteurs, opposition à CIGEO égale association de malfaiteurs, etc. Ça réancre dans les esprits le truc, si jamais les gens l'avaient oublié, que c'est pas une bonne idée de s'opposer. C'est pas une bonne idée d'aller s'afficher en mairie en signant, parce qu'il faut évidemment signer quand tu participes à l'enquête publique, en signant de ton nom en disant, bah, moi qui habite tel village à côté du projet, bah, en fait, je suis comme ces malfaiteurs-là, opposant à ce projet-là. Il y a un truc dans la démarche qui est effectivement assez contradictoire avec l'idée de concertation. Et en même temps, moi, j'ai l'impression que c'est aussi la raison de pourquoi ils ont fait le procès aussi vite. C'est que l'enquête publique, elle a été décalée à l'automne. Et que si ce n'était pas précipité sur le procès, on aurait eu vraiment ces deux trucs au même moment. Et ça aurait, à mon avis, on aurait pu porter un truc en disant, en fait, là, c'est pas possible. Il faut que l'enquête publique soit encore reculée ou quelque chose comme ça. Mais ça fait quand même un truc d'agenda très proche, quoi.
Bien sûr. Sachant que l'année, enfin, on a eu quand même énormément de nouvelles positives, des communes, etc., qui se sont prononcées contre cette DUP, parce qu'on est dans une étape où les gens donnent leur avis par rapport à la DUP. On a l'autorité environnementale qui a pointé tous les manquements et tous les risques de ce projet et qui a vraiment mis un sale coup à cette procédure. Donc c'était quand même. Enfin, c'est toujours une période où on a quand même plutôt des nouvelles positives venant des collectivités locales.
Est-ce que vous pouvez maintenant rappeler aux gens qui veulent se rendre comment faire pour que ça se passe bien? Je crois qu'il y a des adresses à citer, des détails pratiques importants.
Alors, il y a deux sites sur lesquels sont publiées toutes les informations relatives à cet événement. Donc, il y a burburbur.info. Et il y a un site qui avait été créé par des malfaiteurs qui s'appelle nous sommes tous des malfaiteurs.noblogs.org. Donc sur ces sites, il y a tous les détails pratiques qui sont régulièrement mis à jour. Il y a aussi des affiches et des tracts qu'on peut télécharger si on souhaite faire de l'affichage. Mais plus précisément, pour se rendre à Bar-le-Duc, il y a une plateforme de covoiturage sur laquelle on peut s'inscrire si on veut proposer covoit ou si on en cherche. Et si on a besoin d'un hébergement sur place, il y a un formulaire qu'on peut remplir pour donner nos besoins. Et voilà, et il est possible de dormir sur place à Bure, mais aussi autour.
Ok, donc voilà. burburbur.info, c'est donc le site sur lequel il faut se rendre. Il n'y a évidemment pas que ça, c'est le site de la lutte, donc il y a énormément de documents et de choses intéressantes.
Bah écoutez, merci.
Bientôt fini, hein.
Eh ben, on est en direct, on retourne avec vous. Et bien voilà, c'était une interview croisée entre des personnes de Bure, donc qui sont poursuivies, vous l'avez compris, et qui passeront au procès donc début juin. Et on va maintenant rentrer dans le dernier volet de l'émission avec, on aura un téléphone avec Farid Elyamni. Farid Elyamni qui a eu le grand malheur en fait de vivre un drame, c'est-à-dire l'annonce de son décès de son frère le 1er janvier 2012 et de vivre toute une série d'événements dramatiques avec finalement la non possibilité de reconstitution de la mort de son frère dans intervenu durant un transfert au commissariat ou dans un commissariat, et il tente depuis avec sa famille de faire reconnaître ce crime, finalement ce crime policier. Donc dans un premier temps, on va entendre une chanson qu'avait enregistrée Wissam donc avant son décès, avec des paroles un petit peu frappantes, et puis après on aura donc Farid au téléphone pour revenir notamment sur l'écriture de son ouvrage Wissam Vérité, qui est paru aux éditions du Croquant en mars 2021. Voilà, donc très récemment.
L'embrouille, on est à fond dedans. On a le temps, on est jeune et on sait ce qu'on vient rappant. J'aime écrire, sortir, virer, en virer, laisser tout le monde dire que l'embrouille ça va finir par virer. J'ai tapé dans un sale gâteau, lancé sur un sale bateau. Et si on te mène en bateau, c'est que j'ai pris tôt le micro. J'ai la rime de mon côté, quelques paroles intimes à donner. Augmente ta prime si tu veux me sonner. Les convocations nous cassent le moral, comme partout à propos. Je dégage l'odeur de popo sur un truc. Laisse-moi le temps, juste le temps d'exposer ma toile de rime fraîche avant d'exposer. Garde la pêche si t'es pas du même côté. Le SS, on est là, on vient fumer le sutla. On est de la 26e lettre de l'alphabet, ma sœur.
On est là, allez, viens me serrer la main et derrière, dès que je vois un enculé.
Oh, regarde-moi faire dans la zerzère.
Pire qu'un type à manque de zerzère. Pleurant pour plaire, atmosphère, coupe
fin de l'éther.
J'en suis même chacha, c'est pas moi que tu vas chier. Si on se lance, c'est cela. Par expérience, ça pousse sans seul flou, se manque là, sans plein corps à corps. Chacun son histoire, son ordre de gloire en
pénurie.
Pas d'argent, pas d'amis. Elle décorce pourri de l'an. Finir la rage du pauvre, se privant pour ses enfants tout en nous faisant comprendre. Quand t'es fort, tu peux entreprendre. Le temps perdra tout attendre, perdre son temps à le reprendre. Dans quel sens
nos vies basculent.
Le temps, ils pensent pour nous au fil des ans.
Forge, forge, on marche.
On construit pour pas être matricule. Manipulé en
long, long,
manipulé en
large.
Est-ce qu'on est ici en arrivant d'habiter où l'on vit? Nos parents n'ont pas choisi, y a trop de monde qui dort.
Et c'est dur,
une envie de nous foutre dehors.
Une fois pour eux,
on est fait le plus dur. De vraie ordure, on sort de l'ombre
et de l'ordinaire.
Personne pleure pour nous d'être dans le débine. Au point où on en est,
si tu discrimines.
Au point où on en est, à coup point ça va s'écler.
La branche lui dit retourne-toi, les mains sur la table, pointons derrière.
Si tu nous entends pas,
tout le monde la main en l'air.
Là tu vas nous entendre.
Y'a plus de force pour plaisanter de te faire sourire. Pendant que les miens perdent leur santé, ne peuvent plus sourire. Y'a plus de force pour se taire et les regarder souffrir.
Eh ben, on est maintenant avec Farid au téléphone. Merci Farid de t'être réveillé tôt en ce dimanche matin.
Merci à vous de m'avoir contacté pour parler de notre affaire et puis du livre. Voilà.
Donc voilà, donc en introduction, on entendait une chanson que tu nous t'as fait parvenir un peu à toutes les personnes qui suivent finalement votre combat pour la reconnaissance de ce crime policier qui s'est passé donc dans la nuit du 1er janvier 2012, il y a maintenant 9 ans. Ça a été c'est un combat de longue haleine et qui est très compliqué parce que vous avez contre vous des forces assez puissantes finalement. Et est-ce que c'est possible de revenir un petit peu sur ce qui a été ce long combat, et ce qui est encore d'ailleurs ce long combat pour la reconnaissance, puisqu'il y a eu, on t'avait interviewé il y a de ça je crois 2 ans, mais depuis il s'est passé encore des choses, puisqu'il y a eu une expertise indépendante si je me trompe pas. Voilà, en fait votre lutte, ouais, votre combat pour faire reconnaître ce qui s'est passé dans cette nuit du 1er janvier 2012.
Oui, tout à fait, le 1er janvier 2012, à Clermont-Ferrand, dans un cadre en fait de jour de l'an, hein, de fête. On ne sait pas trop quelle est la raison qui a poussé mon frère à jeter une pierre sur une voiture de police, mais comme une soirée en fait qui se serait mal passée, quoi. Normalement, dans ces cas-là, mon frère aurait dû, comment dire, peut-être répondre de ses actes, bien sûr, mais il était, comment dire, il était vivant, il était en bonne santé. Au moment où il a été arrêté, il était sous la responsabilité des policiers. Et les policiers n'ont pas, comment dire, n'ont pas été à la hauteur. Ils ont pas, ils ont décidé en fait de eux-mêmes de faire la fête, quoi. Et pour faire la fête, en fait, ils avaient devant eux un bon gibier pour s'amuser. Donc ils se sont bien amusés sur le corps de mon frère et ben, mon frère maintenant est dans le cimetière, voilà. Et dans le cimetière, et les policiers qui sont impliqués dans la mort de mon frère n'ont pas la moindre égratignure. Enfin, je le précise, hein, des policiers qui n'ont pas la moindre égratignure, alors que mon frère est dans le cimetière, donc et les institutions se posent la question, est-ce que c'est une injustice? Donc, n'importe qui aurait, comment dire, un petit peu de jugeote ou de bon sens dirait que, à partir du moment où il est menotté sous la responsabilité, ben effectivement, c'en est a fortiori une. Mais pour cela, en fait, effectivement, il va y avoir une instruction qui va être menée, comme je l'explique dans le livre. L'instruction n'a pas pour but de faire la vérité, mais plutôt, au contraire, de la détruire. De la détruire. Alors, quand je dis ça, vous allez dire, ben, le gars, il abuse un petit peu. Mais je cite les éléments. Au bout d'un certain nombre d'éléments, voilà, tout va être fait pour, d'une certaine manière, qu'on en arrive à la conclusion que c'est un accident. Ce n'est pas un accident. Et effectivement, on va être obligé de faire des expertises indépendantes pour rétablir la vérité par rapport aux mensonges qui vont être fabriqués. Par exemple, ils vont dire que mon frère était sous l'emprise de drogue au moment de l'interpellation. En réalité, il n'était pas positif. Ils vont dire que mon frère avait un problème cardiaque. En réalité, ce qu'ils appellent problème cardiaque, c'est une analyse médicale pendant qu'il était dans le coma. Voilà, d'autres éléments que je cite dans le livre, par exemple, ils vont prendre des photos à la fin de l'hospitalisation où il va être cicatrisé au bout de 10 jours en soins intensifs pour dire qu'en gros, qu'il n'a pas été trop marqué. Alors qu'en réalité, et ces photos-là, ils vont les dater du premier jour. Donc il y a un ensemble d'éléments et de faisceaux qui font dire que non seulement l'institution judiciaire n'était pas là pour faire la vérité, mais pour la détruire, c'est-à-dire qu'en gros... Et donc nous, dans tout ça, ce qui se passe, quand je dis nous, je dis ceux qui sont témoins de tout ça, ben on ne peut pas ne pas réagir. Et donc, effectivement, à chaque fois, on réagit et à chaque fois, on raconte ce qui se passe. Et depuis maintenant, effectivement, presque une décennie, ce qui nous semblait important, c'est de témoigner aux gens de ce qui se passe. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on nous montre, mais qu'on ne peut pas montrer et qu'on ne peut pas dire aux gens, enfin, qu'on ne peut pas montrer. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quand vous voyez... des photos antidatées, ben malheureusement on peut pas les montrer. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui font que on est obligé de témoigner de ce qu'on voit pour que les gens se rendent compte de qu'il y a un problème pas simplement au niveau de l'institution judiciaire, mais un problème général qui fait que on est dans un environnement où ça serait presque normal de supprimer la vie d'une personne, et ça serait presque normal en fait d'aseptiser cette mise à mort, parce que là on parle pas de il n'y a pas plus en termes d'injustice, et tout ça pour nous c'est inacceptable. Mais en même temps, une fois qu'on a fait tout ce constat là, ben la question elle est qu'est-ce qu'on fait? quand on a compris tout ça, qu'on a compris que tous, voilà, qu'est-ce qu'on fait Et j'essaie un petit peu aussi dans le livre d'expliquer que j'essaie de me battre contre le fatalisme des gens, beaucoup contre le fait que les gens se disent on ne peut pas faire grand-chose si on peut faire beaucoup de choses. Et nous en sommes la preuve, toi et moi, nous en sommes la preuve qu'on peut faire un petit peu de notre côté. Mais c'est déjà ça, c'est déjà ça.
Et oui, et tu dis dans ce livre, donc Wissam Vérité, hein, qui est, je le rappelle, sorti aux éditions du Croquant en mars 2021, tu dis notamment que tu retraces un petit peu le chemin qui a été le tien et le vôtre avec tes plus proches, où petit à petit vous réalisez au fur et à mesure que vous réalisez ce drame finalement et que les événements s'enchaînent et que vous réalisez qu'il y a des choses qui sont pas très normales, par exemple la difficulté à avoir le corps tout de suite, les interrogatoires, des preuves qui disparaissent, des protections policières, l'IGPN qui va pas jusqu'au bout. En fait, vous petit à petit vous découvrez une réalité et vous êtes aussi en fait en confrontation avec une réalité extérieure finalement de mobilisation avec des militants contre les violences policières, des gens qui sont plutôt citoyens du coin, qui ont pas non plus les mêmes manières de voir et finalement vous êtes interrogé presque percuté par ces différentes réalités. Enfin, pas presque. Vous êtes percuté par ces différentes réalités, et là, il y a aussi des choses qui se mettent en branle et en évolution. Et tout ça ressort dans ton livre à base de témoignages avec tous des textes que tu as mis de différentes époques qui sont très forts et qui montrent ça.
Oui, 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 tout à fait. En fait, c'est les différents textes. Moi, s'il y a une chose qui caractérise l'ensemble de ces textes, c'est la sincérité. Je témoigne de ce qui m'envahit et de ce que je pense à un moment donné. Mais ce qui m'envahit et ce que je pense à un moment donné arrive dans un contexte et un environnement aussi particulier. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que je retrace cette évolution-là. Si aujourd'hui, le dernier texte résume ma pensée du moment, le tout dernier texte. Mais si je le dis tel quel, le dernier texte, et si je le développe dans un livre, les gens vont me dire c'est quelqu'un qui a une idéologie, qui est presque extrémiste, qui est radical, qui est tout ça. Moi je comprends que des gens puissent penser ça, parce que moi-même, je pouvais penser ça. Quand il y avait des gens qui commençaient à me parler ou directement, je peux comprendre, parce que lorsqu'on n'a pas l'ensemble des événements, lorsqu'on n'a pas l'ensemble du vécu, certaines réalités peuvent nous paraître, certains mots, certaines façons de parler peuvent nous paraître extrêmes, tellement extrêmes qu'on peut les accuser d'être dans l'idéologie. Moi, justement, dans ce livre-là, ce que je voulais absolument, c'est retracer pourquoi je pense ça à un moment donné. Alors, qu'est-ce qui m'amène à un moment donné penser quelque chose? Et cette évolution-là, en fait, est une réaction et pas une action. Je ne choisis pas, en fait. Je suis obligé de répondre à l'environnement du moment. Effectivement, comme tu dis, pendant 6 mois, le corps de mon frère n'est pas conservé dans le froid et on nous dit après que la contre-autopsie se fera sur dossier. Qu'est-ce que ça peut faire, ça, dans l'esprit d'une personne? Qu'est-ce que ça peut faire d'aller dans une manifestation et de voir des personnes qui se prétendent amies être à côté, manger un kebab et vous regarder en train de manifester? C'est des choses comme ça. Qu'est-ce que ça peut faire quand on vous dit qu'une personne meurt de drogue alors que vous avez des rapports, des éléments scientifiques qui montrent que ce n'est pas vrai? Que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on fait en sorte, on sait qu'on vous ment, mais on sait aussi que les autres vous croiront parce que c'est la figure d'autorité. Je suis procureur, je suis expert, je suis juge. Donc, à partir de là, ma parole vaut plus que la vôtre. Et j'abuse de tout ça. Qu'est-ce que ça peut faire dans l'esprit d'une personne? Et l'ensemble de ces éléments-là, en fait, sont de manière continue. C'est pas une fois, deux fois, c'est sur certains nombres d'années. Et j'essaie de pour moi, c'est très important d'expliquer pourquoi je pense quelque chose. C'est ce que j'explique dans l'introduction du livre. Pourquoi je pense quelque chose et pas ce que je pense. Pourquoi je pense? Qu'est-ce qui m'amène à penser ça?
Alors,
et parce que j'ai la conviction, d'une certaine manière, que à ma place, n'importe qui penserait de la même manière. Et je pense même que je dois être, alors qu'on peut me parler d'extrême ou de radical et tout ça, je pense même que je dois être dans une position la moins extrême si une personne était à ma place.
Juste pour comprendre, faire comprendre un petit peu aux auditeurs, en fait, hein, le livre, donc c'est un livre de témoignages, donc avec 25 textes qui vont de décembre 2011, donc avant le mois avant finalement le décès de Wissam, jusqu'à novembre 2020, donc un texte quand même qui est très actuel et où petit à petit voilà, c'est les premiers récits en fait post découverte en fait de la mort de ton frère, et puis après petit à petit ça donne l'impression que finalement vous découvrez que ce crime policier vient interroger sur un système, et aussi il y a une ouverture à certains autres crimes, par exemple une lettre ouverte à la mère de Rémi Fraisse, ou un appel au rassemblement pour Clément Méric, ou encore quand tu te rends en Allemagne pour répondre à l'appel du collectif de soutien de Houri Diallo, donc qui était qui a été retrouvé mort dans un centre pour migrants en Allemagne, et puis donc de montrer en fait les interrogations qu'il y a à la découverte finalement que ces histoires et ces drames se perpétuent et viennent s'inscrire dans un espèce de système, donc où tu prends conscience donc d'une analyse sur les violences d'État, l'autodéfense populaire et puis des pratiques collectives de lutte finalement.
Oui, tout à fait. C'est avant. Alors le premier texte, effectivement, là, je fais un feedback. Je reviens sur le dernier souvenir que mon frère, la dernière fois que j'ai vu mon frère, effectivement. Et effectivement, depuis, je suis en contact avec beaucoup de personnes et avec vous-même d'ailleurs, avec des gens un petit peu de partout. Et je comprends. Une chose, en fait, le fait de c'est comme un programme informatique. Quand vous avez un programme informatique qui bug, ben vous dites le programme n'est pas bon. Le programme n'est pas bon. Et le programme, en fait, c'est tout ce qu'on dit, c'est tout le mythe, toute la belle musique qu'on nous chante. Les politiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous font que nous parler. Mais moi, je croyais en tout ce qu'on me disait. Moi, je croyais d'une certaine manière, à l'éducation qu'on nous donnait à l'école, sur la République, sur l'histoire, sur la grandeur, sur la tout ça. Moi, j'aimais l'histoire de France. J'aimais toutes les espérances, quand je regardais l'équipe de France, vous voyez, je palpitais. C'était quelque chose qui me prenait. Je me disais, je fais partie de quelque chose de grand, de grand. Et en réalité, avec l'histoire de mon frère, j'ai compris que ce n'était que des mots. C'est que je faisais partie, effectivement, de quelque chose de grand à partir du moment où j'étais invisible. Mais lorsque je commençais à demander mes droits, ben, j'étais quelqu'un de suspect. J'étais un autre. Et dans cet autre, en fait, il y a eu plein d'autres. Effectivement, quand je vais en Allemagne et que je vois que... d'une certaine manière que voilà l'effet de cascade entre les policiers et les manifestants, comment ça se passe, comment l'échange se passe, ça me fait réfléchir lorsque je reviens en France, lorsque Rémi Fraisse effectivement vient de mourir et que on entend des politiques dire que c'est une insulte les manifestations violentes, alors quand ils disent violentes c'est matériellement violentes, alors qu'en réalité ils ne disent pas ça pour Rémi, ils disent ça simplement pour leur petite fesse, quoi. Tout ça, je commence à le comprendre et à le voir, et c'est même pas un désir, mais c'est un besoin de témoigner. J'ai besoin de témoigner aux gens de ce que je vois, un petit peu comme quelqu'un qui irait dans une, comment dire, un découvreur d'une autre terre et qui se dit j'ai vu des choses et j'ai besoin de vous les raconter. J'ai besoin de vous les raconter parce que je comprends que de là visuel, l'aspect matériel, mais il y a quelque chose qui va au-delà de l'aspect matériel, qui est du domaine du système. Dans quel système on est? Dans quel environnement on est? Et est-ce qu'on souhaite cet environnement-là ou est-ce qu'on en souhaite des meilleurs? Moi, je pense que j'ai envie de croire en un système meilleur. Je crois, comme je vous disais, je me bats contre le fatalisme parce que j'ai espoir. Je me dis, c'est pas vrai tout ce qu'on nous dit en nous disant c'est comme ça et on peut rien faire. C'est pas vrai tout ça. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est justement ce qu'on a envie de nous faire croire. Que les choses sont immuables et qu'il faut les accepter. Non. Et je crois que j'essaie plusieurs choses. D'une part, de me battre contre le fatalisme, mais aussi de faire en sorte que les mots qu'on nous donne et qu'on croit deviennent réalité. Ils ne soient pas que des mots, que des coquilles vides.
Et ce qui frappe beaucoup dans ton livre, enfin ce qui m'a frappé beaucoup, c'est toujours cet appel finalement à l'espoir, à dépasser les croyances, à dépasser une espèce de d'impossibilité d'agir, de dépasser des forces qui seraient vues comme trop puissantes, de toujours aller de l'avant, et notamment des citations qui sont quand même assez qui sont fortes, comme la question n'est plus le si mais le quand, comme pour l'esclavage, mais il ne viendra pas seul, il viendra quand il sera coûteux d'être injuste avec nous, ça on le sait tous. Ou des appels à la victoire, par exemple, de dire que la victoire est dans le nous, la victoire est en nous, et comment finalement, en s'appuyant sur les exemples aux États-Unis, en s'appuyant sur les luttes de reconnaissance contre les victimes de violences policières, comment on arrive à faire une force et aller au-delà et à se rendre plus fort ensemble. Tu parles aussi de l'intersectionnalité, un peu dans cet angle-là, de découvrir que finalement, c'est être à l'intersection, c'est pouvoir compter sur l'ensemble des forces. Et ça, je trouve que c'est un appel finalement à l'espoir, à aller toujours au-delà. Comment malgré le drame, t'arrives à finalement pousser cet espoir?
Bah, en fait, je crois que c'est beaucoup plus simple d'être juste que d'être injuste. Moi, quand je vois tout ce qui est fait pour réussir à faire croire à une illusion, en fait, c'est beaucoup plus simple de détruire cette illusion. C'est comme un tour de magie. Hein. Ça demande un effort extraordinaire de faire un tour de magie. Mais pour détruire un tour de magie, c'est très simple. Pour détruire un tour de magie, c'est très simple. Et je crois qu'il y a quelque chose quand je dis le mot juste, c'est pas juste de justice. Juste, c'est quelque chose de qui sonne bien, quelque chose qui et je crois quand je parlais de l'esclavage dans l'histoire, c'est que c'est juste, je me suis intéressé à tout ce qui est l'esclavage là. Ça n'a pas été fait, l'esclavage n'a pas été donné par parce que c'était bien de la donner, non, ça a été donné parce que ça devenait trop compliqué. C'était beaucoup plus simple d'avoir des personnes qui demandent par eux-mêmes leur propre esclavage que d'asservir des gens. C'était juste une question de coût. Donc, quand on voit certains pays très petits, Botswana ou des trucs comme ça, qui ont réussi à se décoloniser, le Vietnam, vous voyez, qui ont réussi à se libérer, c'est que il suffit juste de persister. Dans ce cas de juste, de persister comme une braise, de persister, et puis et de faire en sorte que les gens autour de cette braise-là ne soient pas complices, comme pour l'esclavage, comme pour tout, comme pour la peine de mort. Je parle aussi de la peine de mort, comme je parle de beaucoup de choses. Et c'est juste, en fait, le système, c'est la phrase de la Boétie qui dit. Soyez résolus à ne point servir et vous voici libre. Nous, le système, il repose, un système injuste repose sur la complicité de sa population. C'est pas eux, ils sont forts et nous, on est faibles. Non, c'est eux, ils sont forts parce qu'on a choisi d'être faibles. Parce qu'on a choisi collectivement d'être faibles. Et c'est ça que j'en suis persuadé de ça. Pourquoi? Parce que dans nos affaires de violence policière, de violence d'État et tout ça, le système, il sait ça. Il sait que ce qui il va absolument criminaliser, salir, parce qu'il s'adresse à la population, parce qu'il sait que c'est sa population qui est dangereuse pour lui. C'est pas nous qui sommes dangereux ou tout. C'est sa population, parce que si sa population ferme les yeux, il peut faire ce qu'il veut. Si la population dit il y a un problème, comme on a vu pour l'affaire Zecler ou d'autres choses, là il va dire je suis obligé de faire quelque chose. Et je crois que c'est quand je dis espoir, j'ai envie de dire plutôt j'ai envie d'enlever le désespoir des gens, leur faire comprendre que vous avez une puissance, mais on vous fait croire que vous en avez pas. Et c'est plus les gens, j'essaie pas de donner de l'espoir, j'essaie de leur enlever le désespoir. Leur dire, vous avez de la puissance. Vous avez de la puissance, parce que moi-même, pendant toutes ces années-là, j'ai pas beaucoup de force, pas beaucoup de puissance, je me voyais inutile. Eh ben non. J'ai trouvé en moi des ressources, et si tout le monde pouvait trouver ces petites ressources, eh ben, on vivrait collectivement mieux. Je demande pas le privilège, avoir des privilèges. Je demande pas aux autres, je m'attaque pas aux droits des autres, ni même aux droits des policiers, ni même aux droits de chacun. Je m'attaque simplement au privilège de tous pour faire en sorte que les droits de chacun puissent exister. Et je crois que lorsque je me bats pour mes droits, et ben je me bats aussi pour tes droits à toi et donc nos droits à nous. Il est là le nous. C'est que c'est pas un truc, c'est pas une question de Farid ou quelqu'un qui se bat pour des droits particuliers. Non, je me bats pour des droits particuliers au nom des droits de tous. Et si je me bats pour ces droits-là, ben ça sera les droits de tous pour lesquels on va se battre. Et l'histoire le montre. L'histoire le montre que tout ce qui se base sur des choses qui sont un petit peu fausses, vous pouvez mentir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais je crois que là, le paquebot est lancé. Les gens ont compris qu'il y a des... À un moment donné, on nous disait qu'il n'y a pas de violence policière en France. À un moment donné, on disait, non, on tue pas en France, on tue aux États-Unis et tout. Ben, pour l'affaire de George Floyd, au bout d'un an, ils ont été jugés, ils sont envoyés en prison. C'est depuis 10 ans, je vois pas un policier impliqué dans des crimes policiers être envoyé en prison. Le paquebot commence à être lancé. Et petit à petit, maintenant, ils sont obligés de... Parce qu'ils ont toujours fait ça, comme ça, en fait. Ils ont toujours ils ont toujours réussi à couvrir des crimes ou des injustices par le mensonge. Ouais, mais maintenant, le tour de magie commence à être vu. Voilà, et moi, je suis là pour témoigner, le livre est aussi là pour témoigner du tour de magie, pour faire en sorte, en fait, de se dire, dater le changement, qui sera inévitable, comme pour l'esclavage, oui. Comme pour l'esclavage, il faudra à un moment donné changer. Ben là, c'est pareil. C'est fini. Bon, ils avaient leur période de gloire, leur période de privilège où ils pouvaient tuer, tabasser, mentir. Mais ça peut pas être parce que c'est ça peut pas perdurer indéfiniment dans le temps. Ce système-là où les gens ont des permis de tuer et puis se donnent après des médailles d'honneur, s'auto-gratulent, ça peut pas durer dans le temps. Les privilèges ne durent pas dans le temps.
Eh ben, sur cette phrase, Farid, on va rappeler que ton ouvrage est sorti aux éditions du Croquant donc en mars 2021. Il s'intitule « Wissam Vérité » et il est préfacé d'ailleurs par Mathieu Rigouste, qu'on salue aussi. Voilà. On espère que tu pourras venir nous le présenter directement en studio et puis dans la région. Je me demandais pour finir si quelles étaient les prochaines étapes en fait pour faire reconnaître finalement le crime de Wissam. Le crime sur Wissam.
Oui, sur l'aspect judiciaire, j'essaie de prendre un petit peu de distance. Moi, j'ai beaucoup plus confiance sur d'autres choses que sur l'aspect judiciaire. Sur l'aspect judiciaire, je crois que la justice, elle essaie de trouver le bon moment pour enterrer l'affaire. Mmh. Elle essaie de faire croire que elle va vouloir faire une reconstitution, mais pour mettre une croix sur le fait qu'elle ait fait une reconstitution. Mais nous, à partir du moment où ils n'ont pas fait la vérité médicale, notamment, ils n'ont pas analysé les scanners du cerveau, à partir du moment où ils ont officiellement refusé d'entendre les témoins du couloir du commissariat, témoins d'une scène de crime, on considère que tout le reste, c'est de la symphonie, quoi. C'est de la symphonie. Donc, sur l'aspect judiciaire, nous, notre maintenant, c'est... au début, on se battait pour la justice. Maintenant, on se bat pour que le coup de l'injustice soit le plus fort, comme je vous disais, pour l'esclavage. Voilà. Ils veulent être injustes. Ben, maintenant, on va faire en sorte que leur injustice leur soit coûteuse. Ça, c'est mon objectif aujourd'hui. Ils veulent pas être gagnant-gagnant. Je vais être gagnant-gagnant vis-à-vis de la société, mais vis-à-vis de ceux qui nous ont mis des bâtons dans les roues, ça sera perdant-perdant. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il faut changer et passer à du gagnant-gagnant. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est qu'est-ce que je peux faire pour les emmerder? C'est malheureusement l'une des seules choses qu'on peut faire lorsqu'on subit une oppression. On aimerait pouvoir faire du bien, mais notre seule manœuvre aujourd'hui est de faire du mal, malheureusement. Mal à ceux qui nous font du mal.
Eh ben, écoute, moi, je trouve que, personnellement, ton livre fait du bien et j'invite les auditeurs et auditrices à essayer de se le procurer. Donc, Wissam Vérité aux éditions du Croquant, mars 2021. Et on te remercie beaucoup, Farid. Et puis, j'hésiterai pas à te rappeler parce que c'est toujours aussi passionnant de discuter avec toi.
Merci beaucoup. Et puis, bon dimanche. Il est très ensoleillé. Allez, bon.
Salut Farid.
Salut, au revoir.
Eh ben, il va être temps de nous quitter après cette première émission des Actus Libérés. Et ben on vous invite à vous rendre le 27 ce jeudi à Grenoble pour et puis le 1-2-3 juin à aller dans la Meuse à Bar-le-Duc pour les différents procès dont nous avons parlé ce matin. Voilà, et puis à vous procurer le livre donc Wissam Vérité et enfin de suivre ce qui pourrait être la manif à Entraigues contre la construction de la nouvelle maison d'arrêt. Donc, ça serait le 20 juin. Eh ben, on se retrouvera dans un mois pour une nouvelle édition des Actus Libérés. Et puis, on finit par un peu de musique avec donc 13 minutes 12 contre les violences policières. Salut, bon dimanche.
Malik Oussekine, Makomé, Amine ou Lamine. Autant d'hommes noirs ou arabes que la police assassine. Le savais-tu? Entre 1977 et 2019, c'est 676 personnes que la police tue. Derrière ces chiffres, il y a la réalité des vies volées, des familles détruites, d'une soif de justice qui peine à être étanchée. Car dans l'immense majorité des cas, les meurtriers ne seront pas inquiétés. Ils continueront à exercer en toute impunité. Servir et protéger? Non. Sévir et oppresser, tabasser les classes populaires et les personnes racisées. Tel est en vérité le cœur du métier de policier. Maintenir coûte que coûte l'ordre social raciste et bourgeois, il n'y a pas de doute. La police est faite pour ça. À ceux qui s'indignent et demandent, mais que fait la police? Nous répondons.
18 morts par an, qui ose encore parler de bavure et mentir aux parents? Quand ça fait 40 ans que ça dure, l'exception à l'état de droit, l'oppression à l'état pur. 13, 12, c'est nous, ça veut dire que tous les keufs sont des raclures. Passe-droit systématique, car le problème est structurel. La police prend sous serment, la justice est sous tutelle. L'institution par définition et par nature cruelle. La police tue à tue-tête et en plus elle fait du zèle. Une fois n'est pas coutume, 100 fois c'est la...